Voix enchantées.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantées, l'émission qui dresse le court portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques, un texte personnel et une bribe de phrase marquante entendue dans son entourage ou l'espace public. L'invité du mois de novembre, c'est Hubert. Bonjour.
Bonjour Louisa, merci beaucoup pour l'invitation.
Ben, merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que, avant qu'on commence à déplier ton portrait à travers tes goûts, tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, ton travail, tes passions?
Écoute, moi je fais du conseil financier en Afrique. Concrètement, j'aide des sociétés qui opèrent en Afrique à lever de l'argent. Pas hyper sexy, mais bon voilà, c'est la vie. En termes d'art, ma passion c'est le foot. J'ai entendu que certains de mes prédécesseurs ont parlé de sport, donc voilà, je le cite quand même. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et ça représente, je pense, quelque chose d'assez artistique. Après, mon vrai l'art noble pour moi par excellence, c'est la littérature. De par ma mère qui est prof de français, ça reste l'art qui pour moi épouse le plus facilement la complexité de l'esprit humain tout en étant assez convecteur d'émotions. Donc c'est vraiment pour moi l'art noble. Après, j'adore le cinéma, j'adore la musique, mais je ne dirais pas que je suis un expert.
En tout cas, tu as l'air passionné. On commence avec ton choix d'artiste. C'est la première étape de l'émission, celle du choix d'un ou une artiste qui, toi, te touche particulièrement. Alors, tu as eu un choix un peu particulier, c'est que toi, tu m'as proposé deux personnes. Est-ce que tu peux me dire qui c'est et pourquoi ?
Yes. Donc, effectivement, j'ai choisi deux artistes qui sont chacun individuellement très connus. Michel Houellebecq et Lana Del Rey. En choisir un des deux aurait été un peu ennuyeux, je pense, un peu mainstream. Donc, je me suis amusé un peu à faire un comparatif entre les deux. C'est deux artistes que j'adore et je pense qu'ils sont, même si ça peut paraître surprenant et que je pense que l'un est plus repoussoir que l'autre, mais voilà, je pense qu'ils ont pas mal de points communs. Déjà, la qualité de leur travail, qui est, je pense, assez unanimement reconnue. Houellebecq, c'est des textes, des romans qui sont sublimes malgré tout, très fluides, très drôles. Lana Del Rey, c'est des chansons qui sont envoûtantes, sa voix est mondialement connue, reconnue, appréciée. Après, ce qui m'intéresse plus, c'est un peu les thématiques qu'ils abordent, qui s'approchent vraiment de la conception que moi j'ai de l'art, qui est un peu en fait le contraste permanent entre spleen et idéal. Pour parler de Baudelaire. Voilà, le spleen, je pense, chez les deux, il est assez évident. Lana Del Rey, elle parle que de temps qui passe, d'amour déçu. C'est vraiment des thématiques qui sont très présentes. Je pense que sa chanson la plus connue, Summertime Sadness, c'est que ça, de la mélancolie. Houellebecq, c'est des romans tous plus déprimants les uns que les autres, qui vont jusqu'au glauque, jusqu'au suicide. Donc c'est toujours un plaisir de lire ça. Mais à côté de ça, c'est quand même deux artistes qui ont une vision de l'idéal et ils ont des horizons pour leurs personnages, pour eux-mêmes qui sont quand même assez clairs, je trouve. Houellebecq parle pas mal de religion, de relations entre les hommes. Je conseille à tout le monde le roman Sérotonine et la dernière page du livre qui dresse assez clairement ce qui est l'idéal pour lui. Et Lana Del Rey, c'est plus les moments passés avec les amis, avec des moments d'amour un peu plus ordinaires, j'ai envie de dire. Mais elle parle quand même du bonheur. Et après, le dernier point, je vais un peu long là, mais je vais parler de leur comportement. Pour moi, ils ont vraiment le comportement d'artiste dans le sens où ils sont assez clivants, ils sont assez sulfureux. Ils ont un comportement qui est qui est parfois un peu limite. Je pense que Houellebecq, il n'y a pas besoin de faire des détails, mais Lana Del Rey, elle est pareille, elle est critiquée. On la soupçonne d'alcoolisme, elle a des tendances un peu dépressives. Donc voilà, pour moi, ils ont ce côté pas du tout lisse qui caractérise les grands artistes, et ce, dans toutes les disciplines.
Donc, à la fois figure de l'artiste, peut-être pas maudit, mais quand même un petit peu dans la tradition littéraire, on pourrait dire. Et est-ce que dans la voix de Lana Del Rey, donc sa manière de chanter, et aussi le style d'écriture de Houellebecq, tu trouves quelque chose en commun qui te touche ?
J'ai utilisé le mot fluidité tout à l'heure. Vraiment, une autre caractéristique du grand artiste, je pense, c'est... J'ai vu qu'un de mes prédécesseurs avait dit ça aussi, mais je suis tout à fait d'accord, c'est donner l'impression au spectateur ou à l'auditeur que ce qu'on fait est facile, alors que c'est extrêmement difficile, extrêmement technique, et que ce soit l'écriture de Houellebecq qui est hyper fluide, en même temps hyper simple, c'est pas du tout pompeux, et la voix de Lana Del Rey qui est juste du miel qui coule dans nos oreilles, ça a l'air vraiment, elle a pas l'air de pousser du tout, alors que je pense que c'est vraiment énormément de boulot. Je pense que c'est ça le point commun, cette fluidité, cette chaleur, et c'est en même temps cette simplicité.
Tu parlais de spleen et d'idéal. Lana Del Rey, elle a une chanson qui s'appelle Born to Die, où elle parle et d'amour et de mort. On va en écouter un extrait. C'est des artistes qui sont prolifiques. Lana Del Rey, elle a sorti plein d'albums et Michel Houellebecq plein de livres. Est-ce que tu retrouves leurs pattes d'une œuvre à l'autre ? Est-ce que tu les suis comme ça ou... enfin, je me demandais comment tu les as découverts. Est-ce que tu les suis ?
Écoute, c'est intéressant là, sur la découverte. Je pense que mon psychanalyste s'en régalera d'ici quelques années parce que Houellebecq, c'est vraiment l'écrivain préféré de ma mère. Et Lana Del Rey, c'est mon père qui m'a fait découvrir. Donc voilà, je pense que tout est dit. Après, sur le suivi, Houellebecq, je lis tous ses livres. Je trouve qu'il écrit toujours le même livre, mais toujours avec des nuances. Voilà, donc c'est aussi le propre des grands artistes. Il est un peu toujours dans son style, mais c'est toujours un peu différent, toujours un peu mieux. Lana Del Rey, honnêtement, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté au début de sa carrière. J'étais assez jeune, après j'ai un peu lâché. Et là, récemment, je suis allé la voir à Paris, elle est passée à Rock en Seine. Ça m'a un peu remis dedans, donc je réécoute pas mal ces albums-là. Le lien qu'on a avec les artistes, quand ils s'y durent dans le temps, c'est vraiment la preuve de ce qu'on ressent pour eux.
Et est-ce que tu as déjà lu du Houellebecq en écoutant Lana Del Rey ? Ou ce serait trop complexe ?
Je suis pas suicidaire, mais je pense que ça pourrait vraiment me mettre mal, je pense. Donc non, je déconseille à quiconque de faire ça.
Merci beaucoup. On continue en musique avec ton coup de cœur musical. On va écouter de la musique encore, autre style. Hubert, est-ce que tu peux nous dire le nom de l'artiste et le titre du morceau ?
Le nom de la chanson, c'est Party No Day Stop. Et l'artiste, je vais pas écorcher leur nom, j'espère, c'est Adenkoule Gold et Zinoleski. I'm no more by what I see. I know who I be. I just want my peace, make money, yeah. I go get everything I need in my own timing. Koni kojami, koni dike. So many people deny, Oluwa don't go sign. Can't believe this my life, everything come align. They look at me so surprised, Shomodelo don't buy. I know it's hurting your pride, believe me I don't mind. Party no day stop when we pop. Yeah, we have plenty spending, like it's nothing. Party no day stop when we pop. Yeah, we have plenty spending, like it's nothing. Say me I know they poor free, cause all who I don't consign me. I know they put my foot, no consign me. Kinda slow, but I'm always on timing. Say my eyes don't see many things, see me hook bad draw for time. If you see the hate, you need therapy. Good vibes, no bad energy, yo.
Another day, I'm not a fairy tale, million birthday. Look Hubert, merci pour ton choix. Pourquoi ce morceau ?
Raison assez pragmatique, c'est que c'est la chanson que j'écoute le plus en ce moment. J'aime beaucoup, en vrai, je pense que ça tranche pas mal avec la première partie de l'émission où j'ai parlé de personnages assez... qui pouvaient être un peu tristes. Voilà, j'adore cette chanson, elle est hyper joyeuse. Moi, elle me donne en tout cas la bonne humeur. Alors, faut pas plonger dans les paroles déjà parce que la langue est un peu compliquée. Et puis, les thèmes sont assez classiques du rap actuel, c'est-à-dire ça parle d'argent, de séduction, de sexe, de succès. Enfin, c'est pas passionnant.
D'accomplissement aussi.
Un peu, ouais. Mais voilà, j'adore la mélodie. Ça me permet de faire de donner un petit coup de projecteur modeste, hein, parce que je pense que l'afrobeat nigérien n'a pas besoin de moi pour être célèbre. Mais voilà, c'est un style de musique qui commence pas mal à monter, à être connu, notamment en Europe, avec des super artistes comme, enfin, les plus connus, c'est Rema, Roger, Azake, il y en a plein. C'est un style de musique que j'adore, qui est très écouté en Afrique.
Que tu écoutes du coup beaucoup au quotidien ?
Ouais, exactement. Grâce à mon boulot, j'ai la chance de pas mal voyager sur le continent. Et là-bas, c'est assez omniprésent et du coup, bah, j'ai été vraiment conquis par ça et j'écoute pas mal ça au quotidien. Ouais.
Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes qui passent dans Voix Enchantée et qui, au moment du coup de cœur musical, sont plutôt dans la mélancolie et me disent à quel point ça peut être rassurant d'avoir une musique qui réconforte quand on se sent triste, etc. Là, on est plutôt du côté de la joie. Est-ce que c'est comme un miroir pour toi de « tu es joyeux, donc tu écoutes quelque chose de joyeux » pour voilà, être dans ton mood, ou alors c'est quand on est peut-être un peu triste, qu'on va écouter des sons joyeux? Je me suis demandé ce rapport-là que tu pouvais avoir avec ce morceau.
Moi, je suis plutôt dans l'anti-cycle. C'est-à-dire, si je me sens bien, je vais avoir plutôt tendance à écouter des chansons mélancoliques parce que je peux les supporter, je pense, et parce que les souvenirs ne me font pas de peine et me rendent juste heureux. Quand je suis pas bien, j'aime bien écouter des sons un peu joyeux, qui bougent, etc. Mais voilà, je pense la musique... Enfin, l'art en général, mais la musique, je pense, c'est l'art... Je dirais l'art joyeux par excellence pour moi. Ce qui permet, que ce soit au quotidien ou quand on va en boîte de nuit, c'est l'art qui permet pour moi un peu de dépasser l'absurde de la vie, l'absurde de la rationalité, et de s'échapper en fait dans des contrées un peu sensibles qui sont plus légères, on va dire.
Et est-ce que cette chanson, elle te donne envie de danser ?
Elle me donne envie de danser. En fait, vous ne le voyez pas, mais il y a ma fiancée qui me regarde en train de parler. Et on se fait des petites sessions de danse chez nous sur de l'afrobeat. C'est assez, je sais pas si c'est très esthétique, mais on danse pas mal dessus. Très mal, mais ça nous fait plaisir.
Super. Et ben, ça donne envie de danser. On va continuer avec ton partage de texte. On continue avec le cœur de l'émission, qui est le partage de textes personnels. Donc ça, c'est un petit peu l'étape peut-être la plus intime, parce que c'est quelque chose que toi, tu as écrit. Est-ce que, avant de nous lire ton texte, tu peux nous le contextualiser un petit peu ? C'est-à-dire, quand est-ce que tu l'as écrit ? Est-ce que c'était spécifiquement pour l'émission ? Ou est-ce que toi, tu écris beaucoup ?
Écoute, je l'ai écrit hier soir pour l'émission. Après, le contexte, c'est que je n'écris pas du tout. J'aimerais bien, moi, je rêverais d'être pris Goncourt, un peu comme tout le monde. Voilà, j'ai rendu hommage au Hubert de 17 ans. Mes plus vieux amis, notamment Mathias, que tu connais, s'en souviendront. J'étais un peu poète à l'époque du lycée. J'écrivais quelques poèmes pour parler aux filles. Et du coup, voilà, j'ai un peu réactualisé cette version de moi-même, mais en le faisant de façon un peu plus sérieuse et en l'adressant donc à ma fiancée toujours, à qui je n'ai écrit jamais de mots. Et donc, c'était l'occasion d'écrire quelque chose pour elle, enfin, après tout ce temps. Donc, c'est assez sérieux, je préviens. Mais en même temps, on peut le voir de façon décalée.
Merci beaucoup, on t'écoute.
Il me souvient du temps où j'allais, errant dans le faubourg. Le cœur serré, les idées noires, ivre de colère contre le monde. Mes camarades, de pauvres airs aux voix fécondes, constellaient mes nuits de rêves éteints, de calembours. Un automne vint, où me vint l'idée de faire un tour, dans les quartiers cossus, repus, têtus, de l'ouest parisien. Traînant mon spleen, jetant mes yeux glaces partout alentour, je te vis apparaître, ou plutôt éclore, comme on dit du jasmin. Quel ne fut pas mon bonheur quand tu me saisis fort pour poser sur les miennes sèches tes lèvres de velours. Ce jour béni, muse, est resté comme sans lendemain, un moment devenant éternité, passé main dans la main.
Merci beaucoup, Hubert, pour ton partage de texte qui était super intense, et en plus c'est beau d'avoir Élise en régie, donc on la salue. On va maintenant passer à ton choix d'œuvre phare. Donc parmi une multiplicité d'arts possibles, tu as dû choisir une œuvre qui, pour toi, a un sens ou te touche particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
C'est un film que j'ai vu au cinéma quand il est sorti en 2017, qui s'appelle The Square, qui a été fait par le réalisateur Ruben Östlund, qui s'est fait plus récemment connaître, reconnaître encore plus qu'il ne l'était par le film Triangle of Sadness, qui a eu la Palme d'Or, comme The Square en son temps. Donc c'est évidemment l'œuvre d'un très grand réalisateur. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, déjà, je vous recommande de le voir. Ça parle, je dirais, de l'absurde un peu des sociétés occidentales. Ça se passe en Suède, il me semble.
Mm-hmm. Dans un pays nordique,
à Stockholm. Où on suit la vie, quelques semaines, quelques mois de la vie du conservateur principal du musée d'art contemporain de Stockholm, qui est donc, comme chacun sait, le prototype de l'être humain le plus civilisé qui ait jamais existé. Mais qui en même temps a une vie totalement absurde et confrontée à plein de problèmes. Et ça parle d'un peu des limites de notre société. Enfin, ça parle de plein de choses, du rapport à la tolérance, on pourrait y revenir, du rapport entre la civilisation et la nature, le monde sauvage. Il y a un côté un peu Welbeck, mais c'est moins glauque, c'est beaucoup plus axé sur l'humour, sur le grinçant.
Peut-être aussi le fait de créer un malaise chez la personne qui regarde ce film. Parce que j'ai l'impression qu'il y a donc, comme tu l'as dit, ce paradoxe entre c'est une situation très réaliste, très société, où on est individualisé, où il n'y a pas vraiment de connexion entre les gens, etc. Et situation absurde où on ne sait pas trop où se placer par rapport à tout ça. Et il y a aussi des mouvements de caméra où parfois on voit les visages des gens très très proches, on voit les expressions, les émotions sur les visages de stress, d'angoisse. Et donc forcément, nous, on peut aussi être, en tant que spectateur et spectatrice, happé par ce qu'on voit.
Non, clairement, je l'avais vu à l'époque avec un ami qui avait vraiment détesté. Quelqu'un qui est assez réservé, qui est assez gêné en public. Là, il avait été vraiment très gêné. Il avait quasiment voulu sortir de la salle. C'est un enchaînement en fait, de scènes un peu gênantes. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force du film. Et il y a notamment une grande scène, je pense. Alors, je ne vais pas vous la spoiler. De toute façon, il n'y a pas d'impact sur le scénario, mais il y a une scène d'un dîner de gala où l'œuvre d'art, en fait, il y a une œuvre d'art qui est une performance où un artiste vient jouer le rôle d'un gorille ou d'un singe pendant le dîner de gala. Donc tout le monde est très bien habillé, tout le monde est très propre sur lui. Et il y a un gars qui déboule, très musclé, etc., et qui commence à faire le gorille dans la salle. Et il va vraiment au bout de son œuvre, quoi. Donc il attaque des gens, etc. Et c'est vraiment, pour moi, ça questionne vraiment des choses de façon assez intelligente. Alors ça apporte pas forcément de réponse. Je sais pas quel est le sens du film à la fin. Je sais pas si t'as compris toi déjà.
Mais non, mais je pense qu'en fait, il fait exprès de nous faire penser en mode, ok, c'est quoi le sens caché derrière tout ça ? Est-ce qu'il y a une critique, une dénonciation ? Mais en fait, il nous frustre parce que pas forcément. Ou alors, on l'a pas compris, mais on serait beaucoup à pas comprendre ce qu'il veut nous dire, quoi.
Ouais, non, mais totalement. Je pense que le film est quand même moins... il est moins abouti que Triangle of Sadness. Moi, c'est le premier film que j'ai vu où je me suis dit, tu viens de voir quelque chose de différent. Et c'est ce que j'adore au cinéma, c'est quand je rentre dans la salle et que... 2 heures plus tard, je sors et j'ai pas trop compris ce que j'ai vu, mais je sais que c'était unique et que je reverrai plus jamais ça, quoi. Et ouais. Ça m'a fait ça avec ça, ça m'a fait ça avec son deuxième film qui a eu la Palme d'Or. Et il y a de plus en plus de films, je pense, comme ça. Je pense à Titan qui a eu la Palme aussi un peu plus tard, qui était un film un peu comme ça.
On va écouter un extrait de la BO du film. C'est pendant qu'ils sont en soirée électro au musée. C'est le morceau Shinai de Courbi. En fait, il nous laisse en suspens, c'est clivant, donc on en revient aux artistes qui te plaisent. Et il y a un côté trash aussi. Donc toi, en fait, tu aimes être un peu bougé par ce que tu vois.
Ouais, j'adore. On parle pas mal de cinéma avec mes proches. Je pense qu'on est une génération aussi où on est quand même plus tolérant aux images un peu trash, que ce soit de sexe, de violence, de vomissement, etc. Enfin, ça devient assez à la mode, un peu trop parfois d'ailleurs. Mais moi j'aime bien quand ça va un peu dans l'outrancier, ouais. Ça, faut pas que ça devienne trop dégueu et que ça devienne juste ça, mais je pense que ça dit beaucoup parce qu'on se cache de plus en plus, je trouve, dans notre monde, hein, sans faire le le philosophe de comptoir, mais on est dans un monde quand même de plus en plus policé. Et l'outrance, parfois, permet de dénoncer, de dire certaines choses aussi. Donc j'aime bien, ouais.
On passe maintenant à ta brief de phrase.
Hey, listen. You too crazy, nigga. You better stop, man. You better stop. Let me tell you something.
Comme chaque mois, l'émission, elle se clôt par une bribe de phrase que tu as pu entendre dans ton entourage ou dans l'espace public. C'est quelque chose qui t'a marqué, que t'as attrapé au vol comme ça. Ça peut être glaçant, grinçant, ou juste drôle, ou juste agréable à écouter. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment et la fameuse phrase ?
Alors la phrase que j'ai choisie, elle a été prononcée par un de mes collègues au bureau qui s'appelle Zacharia, que je salue d'ailleurs, comme je salue ma sœur dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, mais bon, ça n'a rien à voir. Donc Zacharia disait, il y a quelques jours, il citait, c'est pas une phrase de lui, il a plagié un grand auteur, il disait « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Voilà, il faisait référence donc à cette œuvre d'Albert Camus où il parle évidemment de l'absurde. Donc ça m'a permis, quand j'ai pensé à cette phrase, donc déjà je l'ai questionné un peu pourquoi il disait ça, je connaissais pas la phrase, j'avais lu le livre au collège mais je me rappelais pas trop. Mais voilà, c'est l'idée que même face à l'absurde du monde et l'absurde de la répétition de ce qu'on fait de notre vie qui paraît être sans fin, un éternel recommencement. La seule attitude à avoir, c'est une attitude positive, de bonheur. Moi, ça m'a fait penser pas mal à la phrase, pareil, c'est une phrase qui m'avait marqué quand j'avais 12 ans, j'avais lu Candide, je crois. Et à la fin, la dernière phrase du livre, c'est il faut retourner cultiver son jardin. Je pense que c'est la seule sagesse. Je voulais donner une cohérence à mon discours général. Hein. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé d'absurde, de vide de sens et en même temps de dépassement. Je pense que le dépassement est la seule sagesse qu'on puisse avoir, c'est de cultiver son jardin, d'être heureux face à la montagne qu'on doit gravir 1000 fois. Ça m'a marqué parce qu'en fait, ça met des mots sur un peu ma vision et mon approche de la vie.
C'est l'art qui aussi te donne comme des guides pour vivre ta vie, quoi.
Exactement, exactement. Et pour revenir à tes questions sur la musique, je pense que quand Sisyphe, on l'imagine heureux, on peut l'imaginer en train d'écouter la musique que j'ai mise tout à l'heure. Je pense qu'il a le sourire en l'écoutant.
Sisyphe et Afrobeat seront les derniers mots de cet entretien. Un grand merci, Hubert, d'avoir été la voix enchantée du mois de novembre. On se retrouve le mardi 17 décembre à 18h sur Radio Campus Paris.